Il est 17h31 sur Radio Campus Paris et c'est l'heure de votre émission d'actualité internationale et de géopolitique.
À l'oreille du monde, géopolitique et actualité internationale. Un samedi par mois à 17h30 sur Radio Campus Paris.
Bonsoir tout le monde, moi c'est Léo LB et je suis ravie de vous retrouver pour le 8e numéro de l'émission À l'oreille du monde. On parle d'actu international et de géopolitique avec toujours la même règle, traiter de sujets peu médiatisés. Et aujourd'hui c'est donc encore le cas puisqu'on part dans un pays qui a été délaissé médiatiquement, voire même délaissé par la communauté internationale, alors que la situation humanitaire là-bas est alarmante à cause d'un enchaînement d'événements, on va l'entendre. Il s'agit donc de la Birmanie, appelée aussi Myanmar. Le pays est sous contrôle d'une junte militaire violente au pouvoir depuis 2021, mais elle fait face à une forte opposition des rebelles. Et évidemment, par sa position stratégique, des facteurs géopolitiques entrent en jeu dans le conflit. Et puis, pour ne pas arranger la situation humanitaire, la Birmanie a subi en mars un séisme dévastateur. Pour parler de tout ça, je reçois dans le studio Alexandra Demersan qui va nous aider à démêler, à comprendre la situation complexe de la Birmanie. En fin d'émission, Florent nous fait découvrir trois aspects différents du pays dans son pas de côté. Avant tout ça, évidemment, je vous fais la carte d'identité de la Birmanie. Merci d'écouter À l'oreille du monde, on est en direct jusqu'à 18h sur Radio Campus Paris.
À l'oreille du monde, sur Radio Campus Paris.
On part donc en Birmanie, un pays de l'Asie du Sud-Est qui détient une ouverture sur l'océan Indien. Elle se trouve dans un carrefour stratégique entre la Thaïlande, le Laos et le Bangladesh, et surtout entre la Chine et l'Inde. La Birmanie est aussi particulièrement riche en ressources naturelles, en disposant de gaz, de pétrole et de minerais rares. Sa localisation et ses ressources placent donc la Birmanie au centre d'enjeux géopolitiques régionaux, on en reparlera tout à l'heure dans l'interview. Le pays s'étend sur 676 000 km², soit à peu près deux fois l'Allemagne. On compte 54 millions d'habitants avec une espérance de vie de 67 ans. Ce qui est intéressant mais aussi source de conflits, c'est que la Birmanie se distingue pour sa très grande diversité ethnique, avec 135 groupes ethniques officiellement reconnus, mais certains, comme les Rohingyas, ne le sont pas et sont marginalisés et persécutés. Le groupe ethnique majoritaire et historique est celui des Bamars, aussi appelés Birmans, et ils vivent dans la plaine centrale de Birmanie. Les autres ethnies sont réparties autour, en périphérie, et forment des états propres à leur ethnie. Vous l'aurez compris, on parle d'états puisque la Birmanie est en principe une union fédérale composée de 7 états et de 7 régions administratives. La capitale du pays est Naypyidaw depuis 2007, remplaçant Rangoon. Un autre changement, c'est le nom du pays. Je vous ai dit tout à l'heure que la Birmanie s'appelle aussi le Myanmar. En fait, les deux noms existent depuis des siècles, mais Birmanie a été le nom officiel quand le pays était une colonie anglaise de 1886 à 1948. Étant donné que ce nom désigne le territoire des Birmans, en 1989, le gouvernement décide de changer le nom international en Myanmar dans le but de promouvoir l'unité des ethnies sur le territoire. Il est justement temps de parler de politique. Après l'indépendance de la Birmanie en 1948, quelques présidents de différentes ethnies ont été élus et se sont succédés. Mais en 1962, le général Ne Win prend le pouvoir par un coup d'État, et à partir de cette année, la Birmanie sera exclusivement gouvernée, officiellement ou officieusement, par une junte militaire. Et cela jusqu'en 2011, quand la junte va s'auto-dissoudre, contre toute attente, pour instaurer un régime semi-civil. Suite alors une décennie de transition démocratique, brutalement interrompue le 1er février 2021 par un nouveau coup d'État militaire, la veille de l'ouverture du Parlement, élu quelques mois auparavant. L'armée arrête alors les dirigeants de la Ligue nationale pour la démocratie, dont Aung San Suu Kyi, chef du gouvernement. Voilà pour la carte d'identité, on reparle tout de suite du coup d'État avec mon invité Alexandra Demersan, on parle aussi de la situation humanitaire et de la géopolitique régionale dans un instant. Vous écoutez toujours À l'oreille du monde sur Radio Campus Paris, l'interview, c'est parti.
À l'oreille du monde sur Radio Campus Paris.
Alexandra Demersan, bonjour. Vous êtes anthropologue, maîtresse de conférences à l'INALCO et membre du Centre Asie du Sud-Est au CNRS. Merci de venir dans À l'oreille du monde. On va donc s'intéresser à l'actualité récente de la Birmanie, notamment à partir du coup d'État militaire en 2021. Mais à ce moment-là et depuis quelques années, le pays était dans un processus de démocratisation de son pouvoir politique après que la junte s'est autodissoute en 2011. Mais alors, qu'est-ce qui a incité l'armée à reprendre le pouvoir de force et quel était son objectif ?
Alors, l'objectif, c'est de reprendre le pouvoir, en fait, précisément. Effectivement, il y a eu une décennie de transition démocratique, en tout cas de réformes économiques et d'ouverture démocratique, mais c'était la seule décennie depuis 50 ans de dictature militaire et de coups d'État et de juntes successifs. Donc, très clairement, en 2021, quand la junte reprend le pouvoir, en fait, des élections ont eu lieu, elle a largement perdu les élections et elle veut reprendre la main et rediriger à nouveau le pays. Elle n'avait pas complètement perdu, laissé la main à un gouvernement civil. En fait, il faut un peu revenir en arrière. En 2008, l'armée birmane fait élire une constitution qu'elle a rédigée, élaborée pour l'armée birmane, à vrai dire, qui lui octroie un certain nombre de sièges, à savoir 25% des sièges au Parlement. Et puis, elle garde la main sur des ministères clés qui étaient l'intérieur, les armées, et le contrôle et la gestion des régions périphériques. Donc voilà, c'était une décennie d'ouverture. Certainement, la junte avait l'intention, revenir au pouvoir par les votes. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, elle a repris le pouvoir par la force.
Et donc, dès le coup d'État, les citoyens et surtout la jeunesse birmane a engagé un mouvement de protestation et de désobéissance civile. Les manifestations ont été réprimées très violemment. Et puis, cette protestation, au fur et à mesure, s'est structurée en groupes armés ethniques, vous me confirmerez, qui ont réussi à repousser l'armée dans certains territoires. Mais qui sont ces groupes armés et comment ont-ils fait pour gagner du terrain ?
Alors, je vais faire une petite précision. Effectivement, avec le coup d'État, c'est tout le pays en entier qui s'est mobilisé. Effectivement, la jeunesse birmane qui vivait une décennie de bonheur, d'ouverture comme jamais elle n'avait connu, a connu un coup d'arrêt et s'est très mobilisée contre la violence de ce coup d'État. Et après des manifestations relativement pacifiques, même créatives, très originales, effectivement, il y a eu une répression violente de l'armée au point que les personnes ont commencé, les militants et les... qui s'appelle le même révolutionnaire, mais en fait, tous ceux qui contestent le pouvoir, cette prise de pouvoir, s'est réfugié pour partie dans les zones périphériques du pays, qui sont des zones habitées traditionnellement par des populations non birmanes, dites ethniques. Et elles sont allées se former, en quelque sorte, auprès de ces populations qui avaient déjà des milices ou des armées ethniques et qui, pour certaines, se battaient contre la junte depuis très longtemps. Alors, ce qui est nouveau, en fait, par rapport à 2000, avec ce coup d'État, c'est que on connaissait des mouvements de contestation de groupes, différents groupes, encore une fois, ethniques dans les zones frontalières du pays. Mais là, ce qui est nouveau, c'est que les Birmans eux-mêmes, en fait, ont eu à subir la répression de l'armée birmane. Et c'est toute la Birmanie, toute classe sociale confondue, toute composante ethnique, sociale, etc., qui s'est mobilisée très fortement.
Donc actuellement, malgré ces différences entre les groupes armés, quelle est la situation, la répartition du terrain entre la junte et les rebelles ? On entend dire qu'elle est fragilisée, la junte, aujourd'hui ?
Alors, la junte a connu des revers assez sérieux, comme jamais jusque-là elle n'avait connu, en fait. Et quand on regarde la situation à présent... pour faire assez vite, ces régions périphériques, justement l'état d'Arakan dans l'ouest, l'état Shan, l'état Kachin, ces régions périphériques, l'armée birmane a perdu le contrôle, on dit à peu près d'un tiers de son territoire national. C'est essentiellement dans ces régions, encore une fois, non birmanes. C'est aussi des régions qui sont rurales. L'armée birmane tient les villes principales du pays, mais pas toutes. Certaines grandes villes frontalières sont passées au commandement d'autres armées. L'armée birmane, en fait, a connu de sérieux revers. Elle a encore la force par des bombardements aériens, en fait. Mais sur le territoire, sur la terre, elle a connu beaucoup de défaites. Donc aujourd'hui, vous avez... je voulais vraiment préciser que ces conflits ne sont pas que dans les zones ethniques. Ils sont vraiment dans le cœur aussi de la Birmanie centrale, dans la deuxième ville, Mandalay. On va en parler, je pense, dans la région du... où il y a eu le tremblement de terre en mars dernier. Donc c'est des situations très très complexes. Mais c'est sûr que la grande partie du territoire qui n'est plus entre les mains aujourd'hui de l'armée birmane se trouve dans l'état d'Arakan et Tachan, dans les régions périphériques.
Justement, vous avez abordé les bombardements de la junte, et on dit, un rapport de l'ONU de mars dit que justement elle est fragilisée, mais qu'en conséquence, en parallèle, l'armée a doublé la violence contre les civils dans les zones rebelles et a mis en place une politique de terreur. Donc de quelle violence est-ce qu'il s'agit? Est-ce qu'on parle de crimes de guerre?
La répression de l'armée birmane, elle est constante dans son degré de cruauté, en fait. Et effectivement, il y a eu le tremblement de terre de mars dernier. Et pendant 3 jours, à peu près, l'armée birmane a arrêté ses offensives, ses bombardements. Et les rebombardements, en fait, ont repris de plus belle sur les populations qui ont déjà eu à subir la dévastation du tremblement de terre et qui étaient déjà fragilisées par plusieurs mois, plusieurs années maintenant de lutte dans des conditions vraiment difficiles. Ils sont en lutte depuis des mois et assez affaiblis. Et l'armée birmane ne fait que continuer à bombarder.
Et les civils, beaucoup.
Ah oui, de toute façon, l'armée birmane bombarde des villages entiers, incendie des villages entiers, extorque de l'argent autant qu'elle le peut. Elle a aussi accentué... Une loi qui a été importante, c'est en l'année dernière, en 2023, une nouvelle loi de conscription qui a obligé tous les jeunes hommes birmans près de 18 à 29 ans à peu près, et puis pareil pour les femmes, à un service militaire de 3 ans pour les hommes et de 2 ans pour les femmes. Donc beaucoup de la jeunesse qui était déjà en partie réfugiée en Thaïlande voisine, en fait, à chercher à s'enfuir. Donc le pays est en manque de ses forces vives aussi. Beaucoup de jeunes sont partis, soit pour éviter cette loi de conscription, ou alors pour fuir les exactions de l'armée birmane. Il n'y a pas que l'armée birmane, il y a aussi des milices civiles qui sont du côté de la résistance, et puis des milices civiles qui sont aussi du côté des militaires.
Donc voilà, avec ces bombardements, ces milices, la situation humanitaire est assez terrible en Birmanie, et elle s'est accentuée le 28 mars dernier, puisque la Birmanie a subi son pire tremblement de terre depuis un siècle, un séisme de magnitude 7,7, et avec la junte au pouvoir, la Birmanie n'était pas préparée, a fait appel quand même, c'est rare, à la communauté internationale, et donc plusieurs pays ont répondu à l'appel, mais est-ce que cette aide humanitaire a réellement pu être acheminée sur tout le territoire ?
Bien sûr que non. En tout cas, il y avait des grandes entraves et des difficultés. L'armée birmane a lancé un appel à la communauté internationale pour deux raisons. D'une part, parce que Naypyidaw, la capitale, et qui est le fief de l'armée birmane, a été affectée. De nombreux bâtiments administratifs et militaires sont tombés. Donc il y avait un intérêt très direct de l'armée birmane, de la junte, à recevoir de l'aide internationale. Et puis, la région du tremblement de terre, c'est la région de Mandalay. Mandalay, qui est la deuxième ville du pays. Ou la troisième ville, si on considère Naypyidaw. C'est une ville que l'armée birmane contrôle. Donc, elle a fait appel à l'aide internationale, mais cette aide internationale a été complètement détournée au profit des endroits, des régions et des villes qui sont détenues par l'armée et a vraiment entravé, autant qu'elle le pouvait, l'aide internationale qui venait notamment dans les zones contrôlées par toute la résistance. Elle a essayé de détourner, de racketter cette aide qui venait soit de l'extérieur par des réseaux locaux, soit par exemple dans la ville, qui venait de Rangoon notamment. Il y a eu beaucoup d'aides de Birmans eux-mêmes qui ont essayé d'acheminer des médicaments, de la nourriture, enfin tout ce qui était nécessaire dans les zones de résistance et ont été très entravés.
Donc la situation humanitaire, vous confirmez qu'elle est alarmante en ce moment ?
Oui, enfin je dirais que c'est une catastrophe de plus sur à la suite d'une longue liste de catastrophes et de calamités que subit la population birmane en fait depuis le coup d'État, on va dire.
Alors avant de continuer notre interview et de parler de géopolitique, on fait une pause musicale et on va écouter un jeune rappeur birman tombé sous les balles de la junte militaire. Il s'appelle Zeyar To et il était devenu une star dans son pays, un modèle, une source d'inspiration, pas seulement pour sa musique mais aussi parce qu'il s'était engagé politiquement. Il a même été élu député en 2012, au début de la phase de de transition démocratique du pays. Et quand les militaires ont pris le pouvoir, il est devenu un fervent militant d'opposition, ce qui lui amènera d'être emprisonné et exécuté par la junte en 2022. On écoute donc tout de suite son titre « Generation Driven by Faith », une génération animée par la foi. C'est de Zeyarto et c'est dans À l'oreille du monde. Vous venez d'écouter Generation Driven by Faith de Zeyarto. Vous êtes toujours dans À l'oreille du monde et on continue de parler de la Birmanie avec Alexandra de Mersan.
À l'oreille du monde, géopolitique, un samedi par mois à 17h30 sur Radio Campus Paris.
Bien, alors maintenant, parlons géopolitique, parce que la Birmanie, par sa position stratégique, est tiraillée par l'appétit de ses voisins, c'est ce que j'ai pu lire, à savoir notamment la Chine et l'Inde. Et par rapport à la Chine, on le sait, celle-ci a des contrats économiques avec la Birmanie, notamment avec les nouvelles routes de la soie. Mais parallèlement, d'après ce que j'ai compris, la Chine est aussi gagnante quand les rebelles gagnent du terrain, des régions. Comment Pékin gère donc ses relations avec la Birmanie? Est-ce qu'elle joue un double jeu avec la junte et les rebelles?
L'histoire des relations entre l'armée birmane et la Chine est un peu longue et complexe. C'est un allié de premier plan de la junte birmane parce qu'effectivement, vous l'avez souligné, elle a des intérêts colossaux en Birmanie en termes d'accès aux ressources naturelles ou en termes de minerais. La Chine dépend énormément des minerais rares qu'elle exporte. Et je crois que 75% à peu près des minerais que la Chine exporte proviennent de Birmanie, les minerais rares dont on parle. Donc il y a ces intérêts-là. Et puis, vous avez rappelé, il y a les routes commerciales avec un accès au golfe du Bengale. Enfin, les projets et les intérêts économiques chinois sont colossaux. La Chine, en fait, jusqu'à présent, a régulièrement arrosé, je dirais, un peu tout le monde. L'armée birmane se méfie un peu. Alors, l'armée birmane, son premier allié, c'est la Chine. Elle a diversifié ses armées en renforçant ses liens de coopération avec avec la Russie. Donc, la Russie et la Chine vendent des armes à l'armée birmane. Donc la Chine demeure un allié. Le Min Aung Hlaing, le président, le chef des armées birmanes, a rencontré le président chinois à Moscou le 8 mai dernier, donc plus de quelques jours après le tremblement de terre, et consolide ses relations.
Et malgré cette situation, la Chine a quand même accès à toutes ces ressources dont elle a besoin actuellement?
Alors, elle négocie, elle essaye de défendre ses intérêts, justement. Elle fait pression auprès d'armées ethniques qui sont situées dans les zones frontalières entre la Chine et puis...
Parce que l'État d'Arakan, justement, est frontalier avec...
Alors, l'État d'Arakan est frontalier homologués avec le Bangladesh. Mais okay. L'état Kachin, l'état Shan, donc au nord de la Birmanie, sont des régions montagneuses. Un certain nombre de routes et d'autoroutes, normalement, sont très, très fréquentées pour transport des marchandises diverses entre le sud de la Chine et la Birmanie pour accéder même aux routes dans le golfe du Bengale.
Et plus globalement, quelle est la position géopolitique de la Birmanie dans la région ? Est-ce qu'elle est importante, notamment avec ses ressources ou par rapport à l'Inde aussi, qui est rivale de la Chine ? Comment tout ça se gère ?
Alors, il y a des projets pharaoniques, tant côté chinois que côté indien, concernant la Birmanie. J'ai évoqué les intérêts, le gaz, le pipeline, pour les Chinois. Là, encore une fois, les intérêts sont colossaux côté chinois. Côté indien, il y a un projet, l'Inde a un projet de développement d'une autoroute, si je puis dire, une autoroute commerciale entre l'État d'Arakan, qui partirait de l'État d'Arakan et qui irait jusque dans ces États du nord-est, qui permettrait justement de désenclaver un peu ces régions du nord-est de l'Inde. Enfin, il y a un projet assez colossal de transport et d'aménagement d'infrastructures, notamment de transport fluvial, pour pouvoir désengorger cette région-là. Des travaux avaient été menés en Arakan et ils ont été interrompus parce que l'armée d'Arakan en fait contrôle ces régions. Elle s'est battue contre, c'est une des armées dites ethniques qui s'est battue contre la junte birmane et qui contrôle ces situations. Donc les projets indiens sont entravés pour le moment, les projets chinois aussi, même s'ils défendent encore une fois leur intérêt. Et puis pour en revenir à la position de l'armée birmane, elle a autorisé des armées ou des milices chinoises à défendre des zones où il y a des intérêts commerciaux chinois. Donc ça, c'est assez nouveau de laisser entrer sur son territoire des forces un peu étrangères pour défendre les intérêts économiques.
Si on regarde plus loin que la région maintenant, un rapport de l'ONU 2025 parle d'une perte d'un soutien de l'aide de la communauté internationale. Et justement, j'aimerais vous demander quelle est la position des pays de la communauté internationale sur la situation birmane ? Est-ce qu'ils ont dénoncé ? Ils sont avec la junte ?
Alors c'est toujours difficile de dire la communauté internationale. Il faudrait sans doute distinguer les pays de l'ASEAN ou de l'Asie du Sud-Est, des pays européens ou même la position de l'Amérique de Trump qui a quand même aussi pas mal changé. Je dirais que les pays restons sur les pays de l'Europe du Nord. Leur position, elle est assez semblable aux années précédentes en bloquant les avoirs. Des hauts gradés ou de leur famille et en faisant un certain nombre de restrictions économiques, de circulation, etc. En Europe. L'Europe est assez silencieuse et elle a peu soutenu le NUG, dont je n'ai pas parlé, le gouvernement d'unité nationale, qui est le gouvernement de l'ombre, qui s'est formé à partir de des personnes qui avaient été élues aux élections de 2020 et qui administre les régions qui sont contrôlées par la résistance, une partie de ces régions-là, qui vit essentiellement de dons de la diaspora birmane ou d'une aide internationale, mais qui est, on pourrait dire, une forme de gouvernement légitime, puisque ceux qui la composent en fait ont été élus aux élections de novembre 2020. Et il y a eu très peu de soutien, en fait, en tout cas officiel, du côté de l'Union européenne, par exemple, ou des États de l'Union européenne.
Alors pour terminer avec tout ce qu'on a dit sur la junte et puis la géopolitique, j'aimerais vous demander quel pourrait être le futur envisagé pour la Birmanie, à la fois par rapport à l'évolution de la junte et des rebelles, mais aussi par rapport au développement du pays, de ses relations.
Alors c'est toujours difficile de pronostiquer. L'armée birmane a annoncé régulièrement des élections et là, elle semble tenir sa feuille de route en voulant tenir des nouvelles élections pour la fin de l'année, donc qui avait été repoussée. Ce qu'on peut voir, c'est que on constate quand même que même si elle a connu de sérieux revers et elle a perdu un certain nombre de territoires, elle semble se concentrer sur les bastions et les zones qu'elle maintient et elle semble vouloir mettre en place coûte que coûte des élections qui de toute façon seront complètement partielles. finalement, après les revers qu'elle a connus, les défaites, le nombre de membres de l'armée birmane qui ont fait défection aussi ou qui ont été emprisonnés, elle semble un peu reprendre du poil de la bête. D'une part, elle s'est consolidée en termes d'effectifs avec la loi de conscription, mais elle a des nouvelles recrues, on pourrait dire, qui n'ont pas fait, qui ne sont pas particulièrement désertées. Et puis, il y a des condamnations, notamment l'ASEAN, donc la communauté des États-nations d'Asie du Sud-Est, qui a une position un peu molle, qui finalement s'accommode assez de la situation. Elle condamne régulièrement, mais elle n'a aucun moyen de pression. Et donc, l'armée birmane s'est aussi à réorganiser visiblement son armée. Et comme en Ukraine, en fait, elle a été très mise à mal par les drones que les armées résistantes se sont formées, ont utilisées, ont fabriquées. Et puis, elle-même, comme on voit avec la Russie aujourd'hui, elle a fait des commandes de milliers et des milliers de drones. Et la tendance vise un peu à s'inverser, en tout cas en termes de... sur le terrain et en termes politiques. Toutes ces armées en fait, qui contrôlent des portions du territoire, certaines se sont mises en alliance, mais de là à constituer une force face à l'appareil administratif et militaire birman, c'est plus compliqué. Donc l'avenir n'est pas très joyeux, à vrai dire.
Eh bien, on suivra la situation à l'oreille du monde. Merci beaucoup, Alexandra de Mersan, d'être venue nous aider à comprendre la situation en Birmanie. Je rappelle que vous êtes anthropologue, maîtresse de conférence à l'INALCO et membre du Centre Asie du Sud-Est au CNRS. Merci.
Merci de l'invitation.
À l'oreille du monde, sur Radio Campus Paris.
Et on termine cette émission avec ton pas de côté, Florent.
Quelques pas de côté même, aujourd'hui, Léo, pour évoquer des aspects surprenants de ce pays. Saviez-vous qu'en Birmanie, on peut retirer de l'argent à l'intérieur d'une pagode bouddhiste, que les conducteurs roulent à droite avec le volant à droite, que c'est aussi un petit paradis pour la cybercriminalité? La Birmanie est tiraillée entre tradition millénaire et modernité brutale. Première surprise, la pagode de Shwedagon à Yango ou Rangoon, l'ancienne capitale du pays. Ce haut lieu du bouddhisme, dont le dôme recouvert d'or culmine à 98 mètres, abrite désormais des distributeurs automatiques de billets. Pas à proximité du site, pas à l'entrée, non, à l'intérieur même du temple. Les fidèles peuvent ainsi acheter sur place encore plus d'offrandes et de feuilles d'or à coller sur les statues de Bouddha. Tradition religieuse et capitalisme moderne s'entremêlent sans scrupules. Deuxième paradoxe, la circulation automobile. Ancienne colonie britannique, la Birmanie avait hérité de la conduite à gauche. En 1970, le général Ne Win, à la tête de la junte militaire et donc du pays, impose la conduite à droite, officiellement pour s'aligner sur les normes internationales. Mais la rumeur attribue cette décision au conseil d'un astrologue. Problème, les voitures importées massivement du Japon et de Singapour gardent leur volant à droite, ce qui rend les dépassements très périlleux. Sans compter les nombreux bus qui font descendre leurs passagers côté route plutôt que côté trottoir. Il faudra attendre 2017 pour que l'importation des véhicules avec volant à droite soit enfin interdite. Aujourd'hui encore, on a donc en Birmanie les deux types de véhicules, comme un contresens de l'histoire. Troisième facette, plus sombre, la cybercriminalité. Cela se passe dans des villes frontalières avec la Thaïlande et la Chine. Des petites annonces promettant des gains d'argent faciles ou prétendant organiser des castings attirent des Chinois et des Thaïlandais dans le besoin. Pris au piège, ils sont enfermés, maltraités et contraints de pratiquer des arnaques financières en ligne pour le compte et des réseaux mafieux qui les retiennent. 14 heures par jour, parfois plus, sous peine de torture. Ceux qui n'atteignent pas leurs objectifs sont battus, privés de nourriture et peuvent être mutilés. Des témoignages avérés mentionnent par exemple l'ablation de reins, ce qui, à n'en pas douter, alimente d'autres trafics. A l'inverse, ceux qui se montrent performants ont droit à des traitements de faveur, comme des repas améliorés ou des relations sexuelles avec des femmes russes, elles-mêmes victimes d'autres réseaux. Ces activités criminelles sont bien sûr particulièrement florissantes dans le chaos actuel résultant de la guerre entre la junte et les forces insurgées. Ces trois exemples illustrent les contradictions de la Birmanie d'aujourd'hui, où se mélangent spiritualité bouddhiste et pragmatisme économique, décisions autoritaires et conséquences chaotiques pour les populations, traditions ancestrales et criminalité moderne. Un pays déroutant à bien des égards.
Merci Florent et merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices, d'avoir écouté cette émission. Je vous donne rendez-vous le 5 juillet pour le tout dernier numéro de la saison. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.
Du monde sur Radio Campus Paris.